Comme directeur de la monnaie, au lieu de prendre son job comme une sinécure, si vous voulez, ici, mais coréenne, il y a eu deux rééditions complètes, deux remplacements complets de pièces anglaises pendant celui de ce directeur. Il a poursuivi les faussaires, il en a fait quand même exécuter une dizaine. Et à la mort de Robert Hooke, il devient président de la Royal Society, qui s'empresse de nettoyer des amis de Hooke, et il entreprend de se venger de ceux qui jugeaient ne pas être ses amis. Donc, parmi ceux-ci, il y avait Leibniz, donc un grand mathématicien allemand, et John Flamsteed, qui était l'astronome royal à Londres. Donc on avait fondé, toujours dans la même année, on avait ouvert Greenwich, et on avait nommé ce monsieur Flamsteed. Et Newton, il avait besoin de données astronomiques pour continuer d'étudier, par exemple, le mouvement de la lune, etc. Et ce monsieur Flamsteed lui donnait toujours un contre-goutte en faisant tomber les choses de haut. J'ai vu une lettre. À un moment donné, Newton a eu une dépression. Il était ami d'un jeune homme suisse qui s'appelait Patio de Bulgier, et puis celui-ci l'a quitté précipitamment, et Newton est tombé en dépression. Alors ses amis l'ont caché, et ce monsieur Flamsteed lui écrivait: « Ah, vous me demandez telle et telle donnée, mais moi, quand vous étiez malade et vous vous cachiez, je n'ai pas dit aux gens où vous étiez, etc. » Bon, et un peu l'état. Il est anobli en 1705, mais non pas pour ses théories scientifiques, mais pour le travail qu'il avait fait à la monnaie, quand même. Voilà la dépression de Newton. Il continue de publier plusieurs œuvres, où en particulier dans l'optique, il y a tous ceux qui connaissent, que lui, il avait déjà élaboré en 1666, donc il a attendu la beauté de 30 ans, 40 ans, si vous voulez, pour publier ça. Et puis, finalement, il meurt très âgé, sans dire rien à personne. Deux siècles après, à peu près, aux enchères chez Sotheby, on a retrouvé des caisses et des caisses de documents de Newton, où il est apparu qu'il n'avait qu'il n'était pas occupé uniquement de mathématiques ou de physique, mais qu'il avait été aussi très loin dans des études d'alchimie et d'histoire ancienne, je dirais pas d'astrologie, et qui ont fait dire aux historiens, finalement, que Newton n'est pas le premier des grands scientifiques modernes, c'est le dernier des grands alchimistes. Mais à son mérite, je le répète encore une fois, il avait ses croyances dans les domaines religieux, historiques, mais il n'y a pas trace de ça dans son œuvre mathématique. Et maintenant, on en vient à M. Voltaire, qui, et c'est toujours le hasard qui fait les choses, c'est que Voltaire s'était moqué du chevalier de Rouen, je ne sais plus les phrases exactes, mais il avait dit: écoutez, moi, j'arrive encore à voir la pièce avant que vous ayez terminé de voir votre nom, quelque chose comme ça. Donc, il avait été rossé. Le chevalier de Rouen l'avait invité à dîner, alors Voltaire, tout content, il était allé dîner chez M. de Rouen, et il y avait trois serviteurs qui l'attendaient et qui l'ont passé à tabac. Voilà. Alors, Voltaire voulait faire un procès, voulait le défier un duel, enfin, on lui a conseillé quand même de partir, donc il est parti, il s'est exilé en Angleterre 2 ans. Et ces 2 ans, c'est de 26 à 29. Or, Newton est mort en 1727. Si bien que Voltaire assiste aux funérailles de Newton et il est complètement subjugué, si vous voulez, par l'ampleur. C'était des funérailles royales. Et donc, automatiquement, avant, comme ce n'était pas un saut, c'était plutôt un esprit réveillé, il commence à demander qui était ce monsieur Newton. À vrai dire, déjà l'ambassadeur anglais à Paris lui avait dit, ben, laisse tomber Descartes et compagnie, occupe-toi plutôt de John Locke et de Newton. Mais bon, à Paris, c'était une chose, à Londres, c'était une autre chose. À côté de Newton, si vous voulez, il découvre aussi de belles différences entre l'Angleterre et la France de l'époque, parce que l'Angleterre avait déjà un parlement, même une chambre haute, une chambre basse, avait des chartes des droits du parlement et du peuple, et ils avaient déjà limogé deux rois. Donc par rapport à la France, on pouvait quand même voir ou dire ou faire un peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas les catholiques non plus. Il approche un ami de Newton, Samuel Clarke, et il entreprend de se faire expliquer de son mieux les théories de Newton. Et il parle aussi avec la nièce qui lui raconte longuement la vie de son oncle. Je parle de la nièce de Newton. Et donc, c'est là que Voltaire a collecté l'épisode de la femme. Et il entame d'écrire les lettres anglaises, qui sont très amusantes, elles sont dans le plus pur style d'un journaliste. C'est-à-dire, il prend un sujet, et il fait la comparaison entre la France et l'Angleterre, puis il passe à un autre sujet, etc. Et c'est évident que ces lettres plaisent beaucoup aux Anglais, mais plaisent beaucoup moins en France. Le titre a été changé en chinois. Peut-être que l'être anglais, c'était quand même pas trop diplomatique. Et ici, vous n'arriverez peut-être pas à lire, mais je vais les lire. Ici, c'est la lettre 14, 15, 16 parle justement des théories de Newton. Et il commence en disant « Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie comme dans tous les restes. Il a laissé le monde plein, il le trouve vide. Je vous rappelle que Descartes avait horreur du vide, il ne mettait pas l'existence du vide. Et à partir de là, disons, faire bouger des astres, des particules invisibles, dans quelque chose comme ça, vide, c'est pas tout à fait simple. À Paris, on voit l'univers composé de tourbillons de matière subtile. À Londres, on ne voit rien de cela. Chez nous, c'est la pression de la Lune qui cause le flux de la mer. Chez les Anglais, c'est la mer qui gravite vers la Lune. De façon que quand vous croyez que la Lune devrait nous donner une marée haute, ce monsieur croit qu'on doit avoir une marée basse. Chez vos cartésiens, tout se fait par une impulsion qu'on ne comprend guère. Chez M. Newton, c'est par une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. À Paris, vous vous figurez la Terre faite comme un melon. Je rappelle qu'à Paris, c'était Cassini qui soutenait que la Terre avait la forme d'un ballon de rugby. Et à Londres, elle est aplatie de deux côtés. La lumière pour un cartésien existe dans l'air, pour un newtonien, elle vient du soleil en 6 minutes de vie. Donc vous voyez un peu le style de Voltaire, quand il veut, il sait vraiment être incisif. Finalement, Voltaire rentre à Paris et il cherche à rencontrer des newtoniens. Forcément, il voulait. Il n'avait pas publié ses lettres encore. Il fallait qu'il les termine. Et il fallait qu'il les peaufine pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, il cherche de l'aide. Et il trouve de l'aide chez Maupertuis. À Paris, si vous voulez, il n'y avait que la jeune vague de mathématiciens qui partageaient à peu près les théories de Newton. Tous les autres, les académiciens, etc., étaient contre. Si bien que moi, j'ai mis la figure d'une main pour dire qu'il n'a pas trouvé beaucoup. On pouvait les compter sur une main, peut-être sur une main et demie, vous voyez. Maupertuis, Clairaut, de la compagnie qui est partie au Pérou. Pierre Varignon, pardon, il manque un N. Pierre Varignon, il n'a pas crié gare, gare. Mais il s'est mis à recalculer les principes de Newton avec les calculs différentiels et intégrales, donc une façon un peu plus utilisable. Et l'abbé Jacquier, était un abbé de Minimes qui avait été à Rome, puis qui était revenu en France, il s'est installé à à côté de Cirey, de toute façon, et on les retrouvera avec Madame Châtelet, et il s'efforçait aussi d'expliquer les théories de Newton de façon compréhensible au niveau de l'enseignement secondaire. Les autres grands mathématiciens en Europe, Huygens, qui était en Hollande et aussi à l'Académie de Paris, Leibniz, on en a parlé, Bernoulli, qui était à Basel, lui, il n'était pas tout à fait contre l'idée, ce monsieur Newton fait de bons calculs, il faut qu'il continue. Mais il n'a pas franchement soutenu. Quelques années après, Maupertuis part au pôle Nord pour mesurer donc la longueur du degré de méridien au pôle Nord, alors que la condamine a été mesurée au Pérou, pour voir si, oui ou non, la Terre était aplatie, comme le disait Newton, ou elle avait la forme d'un ballon de réduit. À ce moment-là, Voltaire ne peut que rencontrer Émilie du Châtelet. Parce que, exactement à la même époque, Émilie se démenait pour essayer aussi de progresser dans ses connaissances mathématiques et physiques. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde disponible, je reviens en arrière, elle s'est d'abord branchée sur Maupertuis, elle a disparu, et puis elle est passée à Clairaut, et il fréquentait les mêmes salons, il faisait les mêmes discussions. Donc, fatalement, Voltaire s'est retrouvé face à face avec Émilie. Il la connaissait déjà parce que Émilie était la fille d'un producteur d'ambassadeur à cour, et Voltaire était le grand ami, le grand protégé de ce monsieur. Mais c'était une fillette. Elle assistait bien entendu à toutes les discussions qui se passaient quand les gens allaient en visite, mais Voltaire l'avait vue toute petite. Et là, il retrouve une jeune dame tout à fait d'un énorme. Si bien que quand les lettres philosophiques sortent, elles sont condamnées immédiatement. Elles sont condamnées en 1734 au déchirement et à être brûlées. Et donc, Voltaire, il faut qu'il se cache, et Émilie avait un château à Cirey, qui était à son mari probablement, qui était délabré, et donc, elle envoie Voltaire à Cirey, et puis, après quelques excitations, parce qu'elle courait toujours après Maupertuis, vu que Maupertuis ne voulait effectivement plus d'elle, elle rejoint Voltaire à Cirey, et là, elle monte une espèce de petite académie scientifique. Voltaire, qui était déjà riche, paye la remise en état du tunnel du château pour pouvoir y vivre avec Émilie. Il met sur pied un système, il monte un cabinet de physique, un système de cloches, parce que de telle heure à telle heure, donc on mangeait à telle heure, on prenait le petit déjeuner à telle heure, puis on travaillait jusqu'à telle heure, puis on reposait jusqu'à telle heure, etc. Donc c'était vraiment une université où Émilie essayait de se faire rejoindre par chaque mathématicien qui était de passage ou de passage ou dans les alentours. Il y aura Clairaut, il y aura. Terminons-en avec Voltaire. Finalement, Voltaire publie les éléments de la philosophie de Newton. Vous pouvez les lire si vous voulez ou pas, mais c'est une œuvre remarquable. Remarquable pour l'époque et pour la personne qui était Voltaire. Donc, ce n'est pas un scientifique accompli. Elle a un seul défaut, c'est que pour suivre la mode, si vous voulez, qui était en Europe à ce moment-là, Voltaire a rajouté toute une première partie de métaphysique. Alors la métaphysique, il faut s'accrocher, parce que quand vous voulez démontrer que les lois naturelles découlent de quelques raisonnements, aussi logiques qu'ils soient-ils, on se prend forcément les pieds dans la taille. Hein. Mais si on fait exception de cette partie qui n'était pas dans l'œuvre de Newton, l'œuvre est tout à fait remarquable. Ici, vous avez la couverture, mais j'ai aussi... Voilà, ça, c'est les figures qui accompagnent les éléments de la philosophie de Newton de Voltaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment de la niaise. C'est un petit traité de physique qui pourrait encore aujourd'hui faire l'affaire, par exemple, au niveau d'un lycée. Alors, l'œuvre de Voltaire a un retentissement immense. Et c'est là que la France change de cap, c'est-à-dire au lieu de continuer à refuser Newton sur un parti pris, il commence vraiment à s'intéresser aux nouvelles théories. C'est un peu drôle d'être révélable à un poète écrivain de petits traités, etc., d'un tel règlement scientifique, mais c'est comme ça. Et on arrive à la jolie Gabrielle Emily. J'ai déjà dit que son père, ayant remarqué qu'elle était quand même relativement brillante, elle l'a éduqué comme un garçon. C'est-à-dire, elle a il est fourni de l'instituteur. Elle était présente à toutes les réunions qui se faisaient dans le salon de son père, où lui, qui n'était pas très cultivé, mais essayait quand même d'avoir toujours des gens brillants. Et donc, Émilie a une formation exceptionnelle pour l'époque et encore plus exceptionnelle pour une femme. Les femmes, à l'époque, elles apprenaient un peu la conversation, etc., à éventuellement à chanter jouer, elle savait aussi chanter jouer. Et comme de coutume, elle s'est mariée à 19 ans avec un marquis du Châtelet, qui était un militaire de carrière, qui lui procure, si vous voulez, la noblesse dont elle manquait, qui lui donne donc l'accès à court et dans tous les cercles parisiens. Elle fait très vite 3 enfants, et puis ayant jugé que son travail en tant qu'épouse était fait, elle commence à profiter des occasions. Donc, elle apprend à jouer, elle apprend à s'habiller, elle apprend à avoir des amants, etc. Premier amant, c'est le comte de Guebriant. Qui était un coureur de femmes, donc c'était ce qu'on appelle un playboy aujourd'hui. Alors Emily avait le double défaut de se prendre toujours de monsieur de ce genre-là, si vous voulez, et en plus de tomber amoureuse et décoller. Donc on avait baptisé un fléau pour cet amant. Bon, la rupture a été un peu tragique. Et après, il semblait qu'au deuxième moment, le duc de Richelieu, le neveu, elle avait appris la leçon. Donc, quand ils en sont arrivés à rompre, ils sont restés très bons amis. Ensuite, elle a rencontré Maupertuis, rebelote, elle ne lâchait plus. Maupertuis, je ne sais plus où c'est, il est parti dans le pays. Et finalement, quand elle a rencontré Voltaire, elle a été incertaine pendant un moment entre les deux, et puis elle a opté pour Voltaire. Il faut dire que c'était un choix avec lequel elle était cohérente, parce qu'ils sont restés ensemble quand même 15 ans. Bon an, mal an. Assiré, Émilie essayait toujours de continuer l'étude de mathématiques, et donc elle avait beaucoup insisté avec avec Bernoulli pour qu'il vienne. Mais on peut faire si, écrit à Bernoulli, n'y va surtout pas, parce que c'est là, tu te donnes des colpules. Elle est dangereuse. Donc, Bernoulli envoie un Suisse le plus suisse qu'il puisse trouver, qu'on peut trouver, c'est Koenig, avec lequel Émilie se brouillera. Et puis, il y a le jeune Algaroff, un jeune Vénitien qui ayant étudié à Bologne, avait appris les théories de Newton, et n'ayant pas poursuivi sa carrière académique, il avait pensé de gagner sa vie en écrivant un livre qu'il avait appelé le Newtonanisme pour les dames, mais qui en italien puis a été traduit en français. Et donc il tournait l'Europe avec ce livre en exposant les théories modernes. Petite digression, pourquoi à Bologne on étudiait Newton? Toutes les universités en Europe le refusaient à cette époque-là, sauf à Rome. À Rome, on n'avait jamais trop aimé les théories de Descartes. Trop matérialiste, il n'y a plus besoin tellement de Dieu, hein, c'est tout rouge, c'est tout mécanique, hein, même les animaux sont des automes. L'automate, il n'y a pas un grand besoin de Dieu. Alors, c'est mieux, donc, même s'il n'avait pas écrit dans son œuvre, mais il a écrit par la suite, il a dit, tenez-vous bien, parce que tout ce système magnifique que vous voyez ne tournerait pas sans un grand horloger. Ça ne peut pas se faire tout seul comme ça. Et alors, les papes, si vous voulez, l'Église catholique, a sauté sur l'occasion du jour, enfin quelqu'un, enfin un scientifique qui juge que la présence de l'œuvre de Dieu sont nécessaires. Et donc, alors qu'en Italie, comme ailleurs, on refusait les théories de Newton, par exemple, à Padoue ou à Florence, là où les papes contrôlaient l'instruction, c'est-à-dire à Rome et à Bologne, on était newtonien. Et finalement, quand elle est convaincue, je reviens à Émilie, quand elle est convaincue vraiment de l'importance de l'œuvre de Newton, elle entreprend de traduire les Principia en français. Alors on dirait, pourquoi les traduire en français, étant donné qu'il était écrit en latin? Objection qui a été soulevée à Paris, à laquelle un astronome a répondu, mais il faut voir l'anglais du 17e siècle. Du latin écrit par un anglais du 17e siècle. Il faut s'accrocher. De plus, si vous voulez, comme il y avait de nouveaux concepts, il y avait aussi une nouvelle terminologie, il y avait de nouvelles techniques mathématiques et tout, donc la traduction était plus que justifiée. Seulement, c'était vraiment une œuvre monumentale, d'ailleurs, ceux qui l'ont eu entre les mains l'ont vu. Et il y a aussi d'autres raisons que je vais expliquer tout de suite. Et pendant ce temps, si vous voulez, les années se sont écoulées, on a dit qu'ils sont restés ensemble 15 ans, donc si vous voulez, en tout cas les premières 5 ou 6 ans, ils ont été les grands amours, et puis petit à petit, Voltaire a commencé à voyager un peu de son côté, etc. Donc, Voltaire a fait deux rencontres, dont la dernière avec Madame Denis durera jusqu'à sa mort, il est parti avec elle à Ferney. Et Émilie, elle a vu un peu de son côté, mais sans grande conséquence, jusqu'à qu'elle tombe sur Jean-François de Saint-Lambert, qui était à la cour de Lunéville, et qui était brillant, un poète, il était jeune, et donc Émilie, la voilà répartie, elle perd complètement les pédales. Et j'en sais quelque chose parce que invité à une séance à Ferney-Voltaire l'été passé sur Émilie, je me suis tapé 1h30 de lecture de lettres d'amour d'Émilie à Saint-Lambert. Au bout de 40 minutes, j'étais déjà sous la chaise. Hein. Écoutez, mais c'est pas possible, cette dame ne pas que ça, s'il vous plaît. Elle me dit, oui, tout, elle a écrit autre chose. Et Émilie est arrivée presque à la fin de sa traduction et elle est enceinte, mais elle est restée enceinte de Saint-Lambert, auquel Voltaire avait écrit, mais quand même, vous avez, à votre âge, vous pouvez connaître les préservatifs. Et elle avait le pressentiment que l'accouchement lui serait fatal, au point qu'elle a travaillé jusqu'à la dernière minute pour terminer son livre, et puis elle a pris tous ses manuscrits et elle les a légués à l'Académie des sciences. Elle meurt donc en 59, une semaine ou deux après l'accouchement, et son œuvre n'est pas publiée encore. Ça prendra encore 10 ans, 8 à 10 ans, pour que son livre sorte, avec une très belle préface de Voltaire qui règle ses comptes a posteriori avec tous les académiciens, etc., les gens qui s'étaient tellement opposés aux nouvelles théories mathématiques. Je ne vais pas vous lire les vers parce que je vais vous les abîmer. Voilà les livres de 1759. Il n'y a pas eu d'autres traductions de Newton en français à part ceci. Il n'y a pas eu d'autres éditions de ce... Bon, il y a eu des autres éditions, mais si vous voulez, il a été réédité l'année passée, c'est le livre que vous avez. La première chose qui m'avait amené vers Émilie et Voltaire, si vous voulez, c'est que j'avais vu cette date de 1759, ça faisait quand même 72 ans après la parution de l'œuvre de Newton en Angleterre. Et tout à coup, j'ai demandé à tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé en France? Qu'est-ce qui justifiait un tel retard, une telle dissociation, etc.? Alors les gens me répondaient n'importe quoi. Ils disaient, ah, mais la France, on n'est pas d'accord avec l'Angleterre à l'époque. L'autre, ah, mais les Anglais n'étaient pas pressés du tout de divulguer des théories mathématiques qui pourraient avoir une valeur stratégique. Oui. Et finalement, l'explication de celle qu'on a un peu donnée, plus une autre qui va venir. Newton s'était disputé avec Leibniz. Et on va juste donner quelques détails. En 1676, Leibniz, qui a été nommé à la Royal Society, vient en visite à Londres. À ce moment-là, Newton venait d'hériter la chaire de mathématiques de son professeur Isaac Barrow, et qui s'était retiré au couvent, et qui était un très bon professeur. Et Barrow, avant de partir, il avait écrit un livre d'optique. Newton n'était pas d'accord du tout avec les théories d'optique de son professeur, mais par respect, il a quand même pris sur lui de suivre l'édition. Donc, il se rendait chez l'éditeur John Collins, qui est celui dont vous avez encore le petit dictionnaire à l'impression de l'État. Et Bernoulli est allé également, et alors, ce monsieur Collins a dit à Newton, mais vous n'avez rien à publier. Et Newton a pris un faisceau de manuscrits où il y avait les calculs différentiels, soi-disant les calculs de fluxion, donc c'est une nouvelle mathématique, et lui a remis. Et par la suite, en dépit de l'insistance de M. Collins, Newton n'a jamais voulu publier ce travail, probablement parce qu'il pensait que ce n'était pas assez fini. Si bien que quand Leibniz va voir à son tour John Collins, l'autre lui montre les manuscrits de Newton sans rien dire à Newton. L'autre, il regarde, je ne sais pas si la presse est ou pas, mais il dira plus tard que ça devait bien servir. Et dix ans plus tard, si vous voulez, en 1685, il publie son calcul différentiel et intégral, qui est celui qui est resté par la suite dans toute l'Europe. Et Newton, quand il voit ça, il fait une rage terrible. Mais rien n'y fait, parce que lui, il n'a rien publié, il n'a rien dit, donc comment prouver que l'autre avait copié son œuvre? Mais c'était quelqu'un qui n'oubliait pas, comme on l'a déjà vu, le saint vindicatif. Donc, quand plus tard il pourra s'en prendre à Leibniz, il mettra toute la Royal Academy contre Leibniz. Et il y aura une dispute qui durera bien au-delà de la mort des deux messieurs intellectuels, et qui créera une fracture entre les mathématiciens anglais et européens, si vous voulez, qui a fait perdre aux mathématiques anglaises un bon siècle de protestants. Et en revanche, comme on vient de voir avec les livres de Mme Châtelet, en physique, l'Europe a perdu presque un siècle, a pris presque un siècle de retard. Alors, dernière chose, pourquoi le travail de Émilie était si difficile? On y arrive, maintenant qu'on a parlé de Leibniz, je peux expliquer. Quand il a écrit le principe de la formule, nous on a deux problèmes. Quelle structure logique donner? On a déjà vu quand il a pris la formulation de Euclidéenne, donc axiome, théorème, etc. Et il fallait aussi faire les calculs. Il ne voulait pas utiliser les calculs différentiels, parce que ça aurait été admettre, ça aurait été utiliser l'instrument de son rival, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait alors? La chose plus invraisemblable que l'on puisse imaginer. Il entreprend de tout démontrer avec les démonstrations géométriques qu'on utilisait en temps des Grecs. Et que j'utilisais aussi au lycée quand on me disait de démontrer avec règles et compas. Vous voyez. Donc, quand j'ai pris en main le livre d'Émilie, pas celui du Parc moderne, celui qui venait de la BNF, il commence avec des démonstrations géométriques. J'ai dit, bon, il y a des démonstrations géométriques. 100 pages après, 200 pages après, 300 pages après, 400 pages après, il y avait toujours des démonstrations géométriques. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose qui était suffisant à décourager n'importe quel lecteur, sans parler de traducteur. Et Émilie, elle s'est trouvée devant le choix de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une traduction littérale et que je me tape tout ce charabia de géométrie classique, ou est-ce que je fais une version explicative avec des instruments plus modernes? Bon, elle a fait les deux. Bien entendu, si vous regardez, il y a toute la première partie de l'œuvre de Newton, et bien la deuxième partie qu'elle a ajoutée, l'explication en utilisant des instruments de calcul plus modernes. On arrive à la conclusion, une qui concerne Newton et l'autre qui concernera les deux. On pense que les théories de Newton ne sont plus valables, ne sont plus éléments. C'est faux. Nous vivons dans un monde newtonien. Tout ce qu'on voit marcher, tout ce qui bouge, bouge suivant les lois de Newton. Pour que la théorie d'Einstein rentre en jeu, il faut descendre soit à des dimensions qui ne sont pas les nôtres, si vous voulez, qui sont vraiment microscopiques, soit, c'est-à-dire il faut descendre au cœur de la matière, soit il faut aller à des distances astronomiques. Mais pour tout ce qu'on fait tous les jours, on utilise les lois de Newton. Je passe. Oui. Conclusion 2, c'est un peu la morale. Quand on regarde sur le plan personnel, on peut trouver que aussi bien Newton que Madame Châtelet n'était quand même pas ni un surhomme, ni une surfemme. Ils étaient comme les autres.